La liturgie de ce dimanche nous donne un thème merveilleux à méditer, c'est la bonté, la miséricorde de Dieu. Bonté dès l'origine, dans sa création, c'est le beau texte du départ, le premier texte du livre de la sagesse que nous avons entendu. Et miséricordieux parce qu'il nous apporte le salut une fois tombé. Il ne nous laisse pas, justement, tomber le Seigneur. La souveraineté de Dieu, c'est une souveraineté d'amour et pas seulement une souveraineté de puissance. J'aime à réécouter ces quelques mots. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. C'est bien le point de départ qui doit être le nôtre lorsque nous pensons à Dieu. La création, tous les êtres matériels et surtout spirituels, bien évidemment, anges et hommes qui y existent, eh bien, ont été créés dans une bonté originelle qui est sans égale, qui est cette bonté de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de mal lors de la création du monde. Et par monde, bien évidemment, on entend l'univers tout entier. Et ce monde a été créé dans le bien et le péché, c'est justement de séparer ce monde de Dieu. À l'origine, toujours, le livre de la sagesse nous dit que Dieu est la source de la vie. Et que source veut dire aussi finalité. Parce que on ne peut pas s'écouler de Dieu pour aller où ça ? Vers quelle destination qui pourrait être meilleure que Dieu lui-même. Ainsi, il faut retourner à Dieu. Et ceux qui se perdent en chemin sont comme des sortes d'épaves égarées au milieu du cosmos invivable. C'est noir, obscur et froid, en suspension, éternellement, pour avoir manqué ce retour. Manqué, pas seulement par accident, manqué par volonté, par refus obstiné. Le châtiment du péché, comme la Bible nous le met sous les yeux, c'est toujours un châtiment, non pas pour vengeance, pour se satisfaire, enfin se défouler un bon coup contre tous ceux qui se seraient révoltés contre lui. Non, le châtiment divin est toujours ordonné à la conversion, au salut lui-même. C'est propre de Dieu, même le mal en ce monde est utilisé par Dieu pour essayer de le transformer en bien. La condition ou le catalyseur pour cela, c'est la liberté humaine. Et c'est pas gagné d'avance, on le sait bien, mais le projet de Dieu, c'est ça. En Dieu, il n'y a que bonté. Alors, il faut surtout pas faire des procès injustes à Dieu lui-même. Les péchés, eh bien, c'est ce qui s'oppose justement à la miséricorde divine. Reprenons tout bêtement les péchés capitaux. Vous voyez, il y a sa part des plus superficiels, des plus anodins, ceux qui touchent la matérialité du corps, la gourmandise, la fornication. Déjà, ça détourne les yeux de Dieu, les yeux des hommes de Dieu. C'est le premier mouvement, c'est le plus extérieur, c'est pas encore l'état de révolte et de rejet de Dieu, mais déjà c'est comme si on tournait son regard en sens inverse. Gourmandise, ça paraît ridicule pour nos contemporains, gourmandise, mais en fait, gourmandise, ça peut aller très loin. On peut accumuler tellement de choses, vouloir tellement de choses, que la gourmandise conduise au créneau supérieur qu'est l'avarice. Et de même pour tous les péchés sexuels. Ça peut conduire à des extrémités vraiment incroyables, à l'obsession. Ensuite, les péchés suivants, avarice et tristesse. Là déjà, il représente une installation loin de Dieu. Spirituelle, s'entend bien évidemment, existentielle. Les hommes s'installent désormais, ils tournent pas seulement leur attention ailleurs, ils plantent leur tente dans cet ailleurs qu'est la matérialité et qu'est l'égocentrisme, la vie repliée sur elle-même. Et avarice, garder pour soi, tristesse, c'est le mauvais fruit de l'avarice. L'avarice ne rend jamais heureux. C'est tout le contraire. C'est faire fructifier l'argent, et c'est pouvoir le partager de façon intelligente, mais réelle, avec les autres. Il n'y a pas de plus grande joie que celle-là, quand on a quelque chose à partager. Ensuite, colère et paresse. Ben, la colère et la paresse, c'est une, ni plus ni moins, ça place les créatures en état en mise en accusation de Dieu. Et là, on passe à un créneau supérieur. On s'est habitué à vivre la matérialité, à vivre sans Dieu, sans foi. Et là, on commence à justifier cette attitude, on commence à construire et à réaliser une sorte de procès à Dieu. Il serait responsable de la tristesse. Et on est au contraire paresseux dès qu'il s'agit de penser aux causes réelles qui nous conduisent dans cet ensevelissement progressif. Vous voyez, c'est l'image d'un ensevelissement. On s'ensevelit dans la matière, dans les valeurs matérielles. Enfin, les derniers péchés capitaux, vanité et orgueil, alors là, ça débouche sur le culte du moi et la révolte contre Dieu. L'orgueil, c'est ça. On veut s'égaler à Dieu. Or, on est sorti de Dieu et voilà que notre trajectoire nous conduit sur des chemins sans issue, pour prendre la métaphore du cosmos, dans une immensité sans chemin précisément, et où on ne trouve plus la finalité de l'existence. Et on croit qu'on a en main son destin quand on est seulement un errant. Les péchés s'opposent à la miséricorde de Dieu parce que les péchés rendent les hommes de plus en plus obstinés, de plus en plus durs et dans le refus et dans les contradictions. Dieu leur tend la main en mettant à l'épreuve, en mettant en crise toutes les valeurs sur lesquelles ils veulent se reposer et ils ne se tournent pas vers le Seigneur. Voilà ce que la foi nous dit, le grand regard de la foi sur les êtres et sur les choses. Mais Dieu ne laisse personne seul. Dieu déjà a inscrit dans l'âme de chacun les moyens de discerner, de faire le point à chaque étape de sa vie. C'est ce que l'Église appelle la morale naturelle. Ce n'est pas une morale qui nous est extérieure. Le décalogue n'est que le reflet de la morale naturelle et quand nous les lisons, en nous-mêmes, dans notre intériorité, ça fait écho à une réalité qui est là. Notre nature humaine est structurée autour de ces lois qui nous permettent de reconnaître le bien et le mal comme le vrai et le faux en matière spirituelle. Dieu ne se contente de donner souvent un coup de pouce, de rappeler ces choses, pour que l'homme dépasse sa paresse, que l'homme se mette de nouveau en chemin dans la quête de la vérité. Le but, c'est la conversion. C'est ce que Dieu vise. Dieu se plaît à visiter Zachée. Pourquoi ? Parce que Zachée, il a fait des efforts pour... Il n'imaginait même pas rencontrer Jésus. Il voulait le voir de loin, il ne savait même pas trop ce qu'il espérait, mais il monte carrément dans un arbre, sur un itinéraire prévisible. Donc il prend les devants, il essaye d'organiser quelque chose pour que le Seigneur lui donne quelque chose, un salut. C'est vague chez Zachée, mais parce qu'en même temps il ne quitte pas sa situation. C'est seulement lorsque le Seigneur vient chez lui qu'il comprend tout et qu'il peut mettre tout en ordre. Le salut implique le désir des hommes à être libérés. Vous voyez, quand on regarde par contraste les populations humaines contemporaines, surtout dans les pays développés, c'est mais même dans les autres, d'une manière un peu différente, c'est tout. Il y a une espèce de, comment dire, de consentement à l'asservissement qui devient de plus en plus généralisé dans les mœurs, dans les mots qu'on doit utiliser. Il y a des mots qui ne sont pas beaux, hein, c'est ce qu'on dit aux enfants, ben c'est ce qu'on dit aux adultes aussi, etc., etc. Et quand on ne peut plus utiliser les mots qui conviennent, alors je ne parle pas des mots orduriers spécialement, mais ça, c'est déjà une limitation et un contour de l'exercice du discernement qui consiste à mettre le mot juste sur les situations. Alors demandons vraiment au Seigneur qu'il soit miséricordieux pour nous et demandons-lui de pouvoir faire ce que Zachée avait fait, admirer la miséricorde, être reconnaissant envers la miséricorde. Et nous pouvons d'autant plus que dans ce sanctuaire dédié à la Vierge Marie, eh bien c'est une maison de la miséricorde dans laquelle nous nous trouvons.